Suivez Priorité Santé avec Sunou Assurance, qui vous accompagne en vacances, au bureau, au village, à la maison, où que vous soyez, pour que 2021 soit une année digitalement excellente. Sunou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Effleurage, modelage, friction, traction, pétrissage, Ayurveda, Reiki, Shiatsu. Aujourd'hui dans Priorité Santé, on parle massage. Massage au pluriel, massage du monde entier, relaxant ou tonifiant. Massage aux multiples indications, qu'il s'agisse de détendre, lutter contre le stress, de soulager certaines douleurs, d'améliorer la circulation sanguine, de récupérer après le sport ou d'agir sur le système nerveux. Massage pratiqué par un professionnel de santé, un spécialiste, un proche ou encore soi-même l'automassage, friction sur les différentes parties du corps, du visage aux pieds, du ventre aux épaules, une pratique basée sur la confiance dont les effets dépendent du moment de la journée où ce massage est prodigué, comme aux conditions d'installation, l'environnement, le matériel. Masser s'apprend, mais avec toujours à l'esprit la bienveillance, en évitant certaines zones sensibles, et nous vous expliquerons lesquelles au cours de cette émission. Et bien sûr, comme chaque jour dans Priorité Santé, nous répondrons aux questions posées sur la page Facebook de l'émission et à notre numéro 33 1 84 22 75 75. Différents types de massages, quelles techniques de base, l'histoire également de cette pratique ancestrale. Nous en parlons avec notre invité, Jean-Christophe Berlin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes masseur kinésithérapeute à Paris. Vous avez co-signé en compagnie de Nicolas Bertrand l'encyclopédie du massage publiée aux éditions Flammarion. Également romancier, puisque vous avez publié le livre récemment « Babacar a disparu » aux éditions du Sémaphore. Tout à l'heure, on retrouvera au Bénin Adeyemi Raimi, kinésithérapeute et membre de l'association béninoise des kinésithérapeutes rééducateurs. Et en fin d'émission, notre rendez-vous avec le docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport, pour parler bien sûr sport et santé.
Priorité santé sur RFI.
Alors Jean-Christophe Berlin, en lisant cette encyclopédie du massage, forcément on apprend beaucoup de choses, un certain nombre de règles à respecter, des conseils, le cadre, l'atmosphère, on va en parler tout à l'heure, mais peut-être d'abord, il y a les bienfaits d'un côté, ça c'est l'essentiel, mais aussi quelques mises en garde, des informations pour savoir ce qu'il faut éviter. Masser, ce n'est pas non plus faire n'importe quoi et s'improviser du jour au lendemain guérisseur.
Oui, dans masser, masse ça veut dire palper, donc on touche. Hein. Dès que vous touchez quelqu'un, ça peut être vécu comme une agression si vous le faites pas bien. Donc effectivement, il faut faire attention. Le massage, c'est un toucher élaboré. Et l'élaboration du toucher se fait par des études, puisque vous avez des études de masseur. Moi-même, j'ai un diplôme de kinésithérapie. Donc il faut comprendre que le massage médical, c'est réservé aux professionnels de santé. Par contre, pour masser, et c'est pour ça que nous avons fait un livre, pour masser un ami ou un parent, on n'a pas besoin d'être spécialiste. Il faut simplement respecter effectivement certaines règles. La première règle, c'est la douleur. Il faut être doux et surtout, il faut avoir de bonnes intentions. L'intention dans le massage, c'est ce qu'il y a de plus important. Si vous êtes bienveillant, si vous avez envie de faire du bien, le massage sera réussi. Si vous êtes énervé vous-même, le massage ne sera pas bon puisque la personne qui sera massée va ressentir l'énervement. Si vous n'aimez pas la personne, elle le ressentira aussi. C'est donc un échange. Il faut bien comprendre que le massage est un échange.
Vous êtes donc un praticien, justement, en consultation. Vous avez cité la douleur. Est-ce que c'est vraiment le premier motif de consultation ?
Oui, très souvent. Bon, nous travaillons sur prescription médicale, c'est-à-dire qu'en fait, les patients nous sont adressés par des spécialistes. Et effectivement, le massage rentre dans un arsenal thérapeutique contre la douleur, mais pas simplement, aussi pour le positionnement, pour les attitudes, enfin pour différentes choses. On a besoin et on a recours au massage.
Et cet effet antalgique antidouleur, ça peut être immédiat?
Oui, bien sûr. Oui, le massage a fait ses preuves. Alors, on a du mal effectivement à quantifier, à faire des études scientifiques sur le sujet, mais le ressenti des patients est évident. Et c'est sûr qu'un massage, en très peu de temps, en quelques minutes, il y a une libération d'endorphines. On l'explique comme ça, et ça permet de soulager les douleurs.
Est-ce que ça peut même, dans certains cas, on va dire, c'est peut-être très schématique, mais remplacer certains médicaments, certains cachets antidouleurs, et même, hein, Jean-Christophe Berlin, éviter d'engager une forme de dépendance avec ce type de traitement?
Oui, bien entendu. Alors, il peut y avoir aussi des dépendances au massage. Il y a des gens qui aiment bien ça.
En même temps, moi, je suis pas contre. Hein,
Et en général, ça, les gens reviennent assez fréquemment chez le kinésithérapeute. Mais il faut comprendre qu'avant les médicaments, on utilisait beaucoup le massage. Hein. C'est une méthode très ancienne qui date des débuts de la médecine avec les Indiens et aussi les Chinois et les Égyptiens. Donc, c'est une médecine qui date de 5000 ans. Et avant les médicaments, on n'avait que ça. Et on l'utilisait bien mieux, puisqu'en fait, il y avait beaucoup plus de massages à l'époque que de médicaments. Donc oui, dans certains cas, évidemment, il faut être raisonnable, mais dans certains cas, le massage peut remplacer certains traitements.
Alors, question qui peut sembler d'une grande naïveté, mais c'est aussi un petit peu mon rôle. Comment ça se fait que si on palpe un endroit du corps, eh bien, on va avoir un ressenti, voire une douleur qui va diminuer à un autre endroit de l'organisme, par exemple, quand on voit tout ce qui se fait autour de la voûte plantaire, les pieds, eh bien, ça agit sur l'ensemble du corps. Comment ça marche?
Alors ça, c'est une cartographie qui a été élaborée par les Chinois. Ils se sont rendus compte qu'effectivement, il y avait des points réflexes. C'est-à-dire que quand on appuie à un endroit, ça correspond à un autre endroit. Et si on l'explique pas très bien, on sait en tout cas que, il y a quand même cet effet-là, cet effet réflexe. C'est-à-dire que quand on appuie, eh bien, il y a des libérations de substances, certainement des hormones, qui vont sur un organe cible. Et donc, en massant le pied, on peut jouer sur l'estomac, effectivement.
Alors, des massages qui existent depuis très longtemps, vous avez cité l'Égypte ancienne, on les retrouve un peu partout sur la planète. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, pour être un bon masseur ou un bon kiné, il faut un petit peu intégrer cette approche, ce patrimoine mondial, où chacun peut faire en fonction de son territoire et de sa culture du massage?
Moi, je pense de manière générale qu'il vaut mieux être cultivé. C'est-à-dire que plus vous savez de choses au départ, plus vous pouvez puiser en fait dans vos ressources pour essayer des techniques. Moi, je suis partisan d'essayer beaucoup de méthodes. J'ai essayé, j'ai pratiqué et je me suis fait masser moi-même dans le monde entier, enfin partout où je suis allé. En tout cas, je me suis fait masser pour essayer de comprendre. Et c'est en essayant de comprendre et qu'on améliore sa propre technique. Et effectivement, oui, il faut puiser dans un répertoire humain très important, puisqu'en fait, on masse partout dans le monde.
Est-ce que certaines personnes répondent mieux justement à certaines approches? Personnellement, vous, Jean-Christophe Berlin, quel type de technique venue d'ailleurs vous êtes approprié?
Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Occident, et du fait certainement des cultures, de notre culture, notre mode de vie, on est un peu défiant vis-à-vis du toucher. Hein. Mm. On se fait pas masser facilement, ça a une connotation parfois érotique, enfin, c'est un peu compliqué. C'est pas le cas dans beaucoup de pays, donc il faut, pour puiser dans des bonnes sources, il faut arriver à détendre les gens et les mettre en confiance, et qu'il n'y ait pas d'a priori contre le massage. C'est surtout ça que j'ai appris à l'étranger, c'est qu'en fait... en Afrique en particulier, les gens se touchent beaucoup plus facilement, ils se tiennent par la main, ce qui est pas le cas chez nous.
Même donc, si l'air du déjà... temps en ce moment, c'est pas tellement au toucher. Là.
Et effectivement, donc on en parlera tout à l'heure, mais c'est pour ça que l'automassage est en ce moment plutôt
recommandé,
puisqu'en fait, effectivement, on peut pas trop se toucher. Mais le fait de se toucher en soi, ça doit pas être une agression, ça doit pas être un interdit. Donc c'est surtout ça que j'ai appris à l'étranger.
Alors vous le savez, au cours de cette émission, on vous donne la parole et on va le faire tout de suite.
RFI à Conakry, 89.9 FM.
Avec un premier auditeur en Guinée, c'est vous Amadou, bonjour.
Oui, bonjour madame.
Et votre témoignage, votre question, eh bien cette question elle concerne votre père, racontez-nous.
En fait, mon papa il est malade, il a des maux de dos, ça fait 15 ans de cela. Au fil du temps, ça ne faisait que se dégrader et... On est allé voir un médecin, notre médecin. Finalement, vu les traitements qu'il nous a recommandés, il nous a... Dedans, il se trouvait qu'on devrait aller faire un massage. Donc, il nous a dit d'aller faire un massage chez un spécialiste. Bon, il nous a pas directement recommandé. Moi-même, je me suis renseigné et je suis allé vers... Un monsieur qui fait le massage.
Oui.
Bon, il travaille avec un hôpital qui se trouve chez nous ici. Bon, je ne sais pas s'il est spécialiste dedans ou pas. Bon, le fait que le massage, c'est strictement, ils le disent comme ça, professionnel, c'est entre le patient et le monsieur. Bon, mon papa, ils lui ont fait le saut massage.
Oui.
Mais après, à la sortie, quelque temps, il se plaigne. Il dit, le massage qu'on m'a fait là, ça a franchement empiré les choses. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Maintenant, je l'ai demandé petit à petit, qu'est-ce qui s'est passé dedans? Il m'explique comment ça s'est passé un peu. Il m'a expliqué.
Oui.
Bon, voilà. Il se plaignait maintenant chaque fois. Mais moi, je suis quand même... parce que moi, je lui fais des massages de temps en temps.
Oui.
ils se couchent, plat ventre.
Oui.
Moi, je viens doucement sur son dos, il m'indique là où il faut appuyer, je appuie doucement.
Et vous, vous le soulagez quand vous le touchez?
Exactement.
Alors que l'autre personne qui l'a soigné, le professionnel, ça n'a pas bien fonctionné?
Ça n'a pas fonctionné du tout.
Mais il n'est allé le voir qu'une fois?
Non, une seule fois. Depuis cela, je lui ai dit de revenir, il m'a dit non, jamais.
Il veut pas. Jamais, et comment ça s'est passé pendant la séance entre votre papa et ce praticien, ce kiné? Il était en confiance, votre papa, ou il avait pas envie qu'on le touche? Il avait pas envie, j'imagine que c'était un homme, il avait pas envie que cet homme le touche? Il était gêné? Est-ce qu'il était gêné, votre papa?
Peut-être, je crois, peut-être ça peut être dit à cela aussi, mais comme je vous ai dit, ça s'est passé entre eux deux dedans. Moi, j'étais au dehors, j'attendais.
Oui, vous n'avez pas assisté à la scène. Jean-Christophe Berlin, c'est intéressant ce que dit Amadou sur finalement des séances qui peuvent aussi pas bien fonctionner. Il peut y avoir un courant qui ne passe pas ou des gestes qui sont inappropriés. Qu'est-ce que vous pouvez dire justement à Amadou? On entend, c'est un fils qui est vraiment soucieux de la santé de son papa. Il a envie de le soulager. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Déjà, je pense qu'il faut le féliciter du fait qu'il s'occupe de son papa. C'est très bien. Effectivement, il y a des séances qui peuvent ne pas bien se passer. Et dans ce cas, il faut arrêter. Et il a tout à fait bien fait d'arrêter. Et il ne faut pas insister. Il y a des praticiens qui ne sont pas compétents, ça arrive, ou effectivement le rapport entre le soignant et le soigné n'est pas bon. Donc dans ces cas-là, il faut s'arrêter, bien sûr. Et le fait que M. Amadou s'occupe de son père, c'est une bonne chose. Et il peut tout à fait le faire. Et il faut justement, puisque là, il va prendre le renseignement vis-à-vis de son père. Est-ce que je te fais mal? Est-ce que là, c'est bien? Il y aura un échange entre eux. Bien, le fait de faire cet échange-là sera tout à fait porteur et de bienveillance. Et ça sera certainement meilleur et profitable pour son papa. Donc il faut qu'il continue à le faire. Et éventuellement, il peut apprendre quelques gestes. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait un livre. Il peut apprendre quelques gestes techniques qui vont l'aider dans sa démarche de massage. Et il peut tout à fait s'occuper de son père. Ça sera très bien.
Amadou, est-ce qu'il y a eu des mots de mis sur le problème de santé de votre papa? Est-ce qu'on a dit, par exemple, il a une lombalgie, il a une sciatique? Est-ce qu'on a donné le nom du problème?
Bonjour. C'est une lombalgie, en quelque sorte. Mais, vous savez, c'est nous ici, c'est un peu compliqué.
Oui, bien sûr.
Au début, on nous disait d'aller voir les tradis praticiens, qu'il y a une maladie ici qu'on appelle en sousou, on dit tambadi. Donc, au début, on nous disait que c'était cela, que c'est les tradis praticiens qui pouvaient guérir cela. Mais moi, dès le début, je n'étais pas confiance. Voilà pourquoi j'ai dit, allons voir le médecin et on va voir ce qu'il y a lié de faire.
En tout cas, vous avez entendu Jean-Christophe Berlin, ce que vous faites à votre papa, c'est une bonne chose. Continuez bien de prendre soin de lui. On vous remercie infiniment et très très bonne journée à Conakry. Si vous le voulez bien maintenant, Jean-Christophe Berlin, vous avez dit l'automassage aussi, c'est vrai, quand on n'a pas forcément accès partout dans le monde à un praticien, à quelqu'un qui sait masser, on peut se retourner vers soi-même, voire même quand on est seul à la maison, qu'on est un petit peu confiné, bloqué, ou qu'on n'a pas un médecin à côté de chez nous, on n'a pas forcément envie ces temps-ci de se faire beaucoup toucher par quelqu'un qu'on ne connaît pas. Petite séance pour nos auditeurs, automassage anti-stress, dans la catégorie anti-fatigue. On va essayer de se détendre. L'exercice, ça s'appelle, dans le livre, relâcher la mâchoire, précisément page 172. Et je vous propose qu'on vous suive pas à pas, Jean-Christophe Berlin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce massage, cet automassage anti-stress?
Oui. Alors déjà, l'automassage, effectivement, en période de Covid, c'est utile puisqu'on peut pas toujours avoir accès aux soignants. Le stress, une des manifestations du stress, c'est le bruxisme, c'est-à-dire en fait serrer les dents, en particulier la nuit, et serrer la mâchoire. Et à force de serrer sa mâchoire, les muscles de la mâchoire deviennent douloureux en fait. Et même on a du mal parfois, on finit par avoir une sorte de trismus, c'est-à-dire qu'on peut plus ouvrir la mâchoire, on jargonne. Enfin bon, ça c'est un signe de stress très avancé. Ça veut dire que le stress à l'intérieur du corps est important et c'est une manifestation du stress. Donc on peut essayer de soigner le stress justement en massant cette région. Et c'est ce que je vous propose, donc je peux vous l'expliquer si vous
voulez.
Allez-y,
pas à pas.
C'est simple, en fait, vous prenez votre tête entre les mains, vous posez vos coudes sur la table et vous posez la tête sur vos paumes. Vous allez le faire avec moi, c'est très bien. Et avec l'index et le majeur, vous allez repérer la mâchoire. Alors pour repérer l'articulation de la mâchoire temporomaxillaire, eh bien, il faut ouvrir la bouche est fermé, et là vous sentez que ça bouge, et là donc ça veut dire que vous êtes au bon endroit. Et là, avec donc l'index et le majeur serré, vous faites des circumductions, c'est-à-dire que vous tournez dans un sens, voilà, en appuyant hein, sur, à cet endroit-là. Et pendant, voilà, vous tournez assez lentement, hein, il faut faire ça plutôt au calme, il faut faire ça plutôt les yeux fermés, il faut faire ça plutôt en respirant profondément, et vous allez voir assez rapidement que la mâchoire se relâche et que la bouche va s'ouvrir toute seule. En fait, c'est très simple, puisqu'en fait, les muscles se détendent. Donc vous faites ça, vous pouvez tout à fait faire ça au bureau, un moment de calme, et ça vous permet de relâcher les muscles, de vous détendre et de repartir du bon pied, si je puis dire. Alors la deuxième technique à partir de là, une fois que vous avez bien tourné autour des articulations maxillaires, vous allez mettre vos pouces maintenant sous la mâchoire, les deux pouces côte à côte, et vous allez tirer vos pouces vers la pointe du menton, voilà, avec un trait direct, comme ça, voilà, en les faisant glisser. Vous repartez en arrière et vous tirez à nouveau vers le menton. Vous répétez plusieurs fois cette méthode-là. Et là, ça permet de relâcher les muscles sous-maxillaires, qui sont aussi des muscles de la mâchoire. Et c'est avec ces deux techniques successivement répétées pendant, disons, 5 minutes au bureau, vous allez obtenir un relâchement. Le relâchement est très important. Voilà, j'espère que vous
avez compris. C'est très bien, merci beaucoup. J'aurais bien continué, mais il se trouve que je dois présenter une émission. Et on va poursuivre tout en douceur, en musique, avant de donner la parole à d'autres auditeurs dans Priorité Santé avec Gaïda et ce titre « Say Yes ». On se retrouve juste après.
Say yes every time you speak. It's a whole test that will hit my feet. I'ma reassess, not a casualty. You gon' make it bless what's best for me. I'ma say yes every time. Yes every time. I'ma stay blessed every time. Blessed every time. Yes, even when you say less, I'ma confess, using my chest. I gotta stay dressed and toes to my vest. I've been on a quest, I got shown what is next. I'm glad that you addressed it though. It had to be suppressed so I could let it go. Shining like a diamond or a pentacle. Aligning with that climate and it's tangible. You can't control but can't forgive. I will never try to diss. Trying to reignite the bliss and twist the plot back. Submit to the crystal rock back. No physical contact. Working out for me and for you. Now it's more about receiving the cues. Out of order, no repeating excuse. Don't believe it, I know you don't need
I'ma
it.
I'ma say yes every time you speak. It's a whole test that will hit my feet. I'ma reassess, not a casualty. You gon' make it best, what's best for me. I'ma say yes every time. Yes every time. I'ma stay blessed every time. Blessed every time.
You enough. Cause you think you gotta know. What if I told you you could be your own damn joke? I don't wonder, looking back, I've always held the ropes. Running out of order, out of order.
Priorité Santé sur RFI, on continue de parler des massages en votre compagnie, Jean-Christophe Berlin, masseur kinésithérapeute. Comme promis, on prend d'autres auditeurs en ligne.
RFI.
Et pour commencer, donc en ligne de Kinshasa, on retrouve César. César, bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors César, vous avez longtemps été adepte des massages. Comment est-ce que vous en êtes venu à pratiquer ces massages?
Ok, c'est depuis 2014. J'avais un petit souci de santé. C'était plus des stress. Des stress, j'avais des problèmes mentaux. Et on m'avait conseillé pour essayer d'éviter ces problèmes, de s'organiser, quoi, d'avoir une activité physique, des massages, des méditations. Et c'est dans ce cadre-là que depuis 2014 que je me suis plongé dans les massages, les relaxations, une fois par mois et une heure. Et c'était très bien pour moi parce que je me sentais très bien. Et j'ai fait ça pendant plus de 7 ans, comme ça, 2014 jusqu'à 2020, que chaque mois, moi, je me faisais masser. Mm. Et c'est arrivé 2020, pendant les périodes de Covid, au mois de janvier, j'avais des soucis du côté ressources financières,
oui.
Ce qui fait que j'avais abandonné.
Oui.
J'ai abandonné à partir de juin.
Et depuis, César, vous avez senti un changement?
Oui, depuis, c'est ce que j'ai pris. J'ai commencé à sentir un peu des crampes.
Oui.
Des crampes au niveau de cuisses. Et en fait aussi, je sens un peu des raides, quoi, au niveau de mes cuisses et des pieds.
Des raideurs.
C'est comme si les nerfs sont... Mmh. Voilà. Mmh. C'est comme si les nerfs sont tendus.
Sont tendus. Et, et aujourd'hui, César, excusez-moi, vous n'avez pas retrouvé les moyens financiers. On veut dire, si demain vous deviez reprendre un rendez-vous, aujourd'hui, vous n'avez toujours pas l'argent pour payer ces consultations, c'est ça, hein? C'est toujours difficile.
Oui,
c'est toujours difficile.
Ouais. Donc, je suis entre le dilemme, quoi.
Ouais.
Est-ce qu'avec des ressources limitées,
je comprends.
Qu'il faut privilégier, il faut des massages, quoi.
Mm-hmm.
Donc, j'ai essayé un peu de laisser, quoi.
Mm-hmm.
Maintenant, en 2021, j'ai dit, bon, je vais avoir des vies par rapport à ça. Il faut que je puisse recommencer. Mais le plus important, c'est que quelles sont les conséquences qui peuvent arriver, comme j'ai abandonné le temps comme ça. C'est ce qui me préoccupe maintenant.
On comprend bien, Jean-Christophe Berlin, cette question de César. Est-ce que le fait d'arrêter un massage peut avoir un effet sur la santé? En tout cas, César, on a ressenti, lui, certains effets.
Oui, alors on en parlait tout à l'heure, je vous le disais en plaisantant, mais c'est vrai, il y a une habitude au massage. Mm-hmm. C'est-à-dire que les gens s'habituent. Les Grecs, par exemple, se faisaient masser tous les jours, les Romains, de la même façon. Donc, ça peut faire partie d'un mode de vie. Et il faut comprendre qu'en fait, le massage, ça permet d'éliminer les substances. C'est ce que disait Avicenne, un médecin perse, là, au Xe siècle. Il disait que le massage, ça permet d'éliminer les substances néfastes que l'exercice ne peut pas éliminer. Mmh. Donc, effectivement, c'est utile et c'est une forme d'hygiène, le massage. Alors, bon, évidemment, si vous ne pouvez pas vous faire masser, eh ben, il faut remplacer le massage par des exercices ou par des automassages. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous pouvez tout à fait pratiquer vous-même des massages. Si vous aimez ça et si vous en sentez un bienfait, vous pouvez tout à fait le faire.
Ça veut dire que si César, par exemple, l'a dit, j'ai des crampes dans les cuisses, s'il est assis, est-ce qu'il peut faire justement des espèces de palpations, de pression sur ses cuisses pour obtenir une certaine détente?
Bien sûr, il y a des techniques donc, qu'on décrit dans notre livre, mais il y a des techniques d'automassage pour tous les muscles. Alors, les muscles accessibles, hein. Il y a certains muscles qui sont un petit peu difficiles à masser, les muscles du dos en particulier, parce que c'est difficile d'accès. Mais pour les jambes, et les sportifs connaissent ça très bien. Les sportifs, quand ils sont en compétition, ils peuvent pas se faire masser pendant la compétition toute la journée. Donc en fait, une compétition qui dure une journée, les sportifs se massent eux-mêmes, ils le font eux-mêmes, ils savent très bien le faire. Avec des onguents, avec des produits qui aident un petit peu à la récupération aussi, vous pouvez utiliser tout à fait toutes sortes de produits hein, qui vont passer bon, modérément, mais qui passent quand même dans le corps et qui aident, et donc vous pouvez tout à fait vous masser, ça remplacera le masseur si vous le faites bien correctement, et pensez aussi à faire des exercices musculaires, à des contractions musculaires, parce que la contraction musculaire c'est ce qui permet aussi d'éliminer les toxines comme on l'a déjà vu.
Et César, vous vouliez dire autre chose? On vous écoute.
Non, je voulais seulement dire, est-ce qu'on aura des effets bénéfiques? Parce que vous savez, quand je fais les massages au niveau d'un spécialiste, donc je me sens très bien parce qu'on met un peu de la musique et tout ça là.
Et l'atmosphère
voilà.
Autour.
Voilà. Maintenant là, si moi-même je me fais automasser, voilà, je ne sais pas si j'aurai les mêmes effets.
Mm.
Mais en plus de ça, j'ai fait aussi les marches sportives, quoi. Marches sportives, au moins une fois par semaine.
Mm-hmm.
Voilà, c'est pas ce qui m'inquiétait. Comment je peux faire pour pallier à ça?
Mais peut-être demander, vous me contredisez si c'est le cas, hein, Jean-Christophe Berlin, si vous reprenez une autre séance de massage, demandez à votre kinésithérapeute de vous montrer des gestes que vous pourrez reproduire vous-même.
Oui, on peut faire ça ou on peut demander à un conjoint ou un proche de faire des massages.
Mm-hmm.
Il faut comprendre l'innocuité du massage. Le massage, c'est pas dangereux, a priori. Mm-hmm. Si vous avez de bonnes intentions, c'est pas dangereux. Donc, les techniques de massage, même si elles sont pas parfaites, elles sont toujours bonnes à faire. Mm-hmm. Donc, vous pouvez vous faire masser par votre femme, par vos enfants même. Ça se fait en famille. Il y a beaucoup d'endroits dans le monde où les gens se massent très facilement en famille.
Mm-hmm.
Et il n'y a pas de technique a priori. Simplement, c'est du toucher. Donc, si le massage pour ce monsieur est profitable, il peut tout à fait le faire avec des gens qui ne sont pas nécessairement des spécialistes, mais qui sont bienveillants.
Mm-hmm. Avec quelqu'un qu'on apprécie tout simplement. Merci beaucoup César. Excellente journée en République démocratique du Congo. Direction le Cameroun à présent, Douala, où on retrouve Wilfried. Bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors, vous, la question que vous allez poser concerne votre maman. On vous écoute.
Bon, merci pour la parole. J'ai ma maman âgée de 45 ans qui se plaint de douleurs sur le bras gauche depuis quelques semaines.
Mmh.
Et J'ai essayé un peu de lui faire des massages et j'ai constaté que le siège de la douleur même, c'est au niveau du coude.
Mmh.
Et donc, c'est elle qui donne le ton du massage. Et quand on fait les massages, elle sent un peu la douleur sur tout le bras, dans les doigts, sur les épaules.
Mmh.
Moi, alors, mais sur le coup, quand je masse, ça la soulage. Mais chaque fois qu'elle rentre du travail, elle se plaint toujours, la douleur augmentée.
Mmh. Elle fait quoi comme travail, votre maman? Elle fait quoi comme travail?
Elle gère les approvisionnements dans un supermarché. Donc, des fois, elle est sur l'ordinateur, dans les rayons, classe de produits, porte de charge.
Elle travaille beaucoup.
Oui, c'est ça.
Et vous avez l'impression, vous, que ces douleurs sont liées à sa profession?
Oui, j'ai l'impression de ça. Parce qu'au début, je l'avais conseillé de prendre un repos. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle est restée à la maison mm-hmm. un jour. Et là, un jour-là, bon, elle a senti que ça allait un peu mieux. Mais comme elle a repris aussi le travail, bon, le bras toujours, chaque fois qu'elle rentre le soir, elle se plaint de douleurs et tout et tout.
Vous êtes très attentif, Wilfried. Vous faites quoi comme activité? Parce que vous conseillez du repos, vous massez votre maman, vous êtes dans le soin ou la santé?
Non, pas du tout, pas du tout.
Vous êtes juste un bon fils.
C'est ça.
C'est ça. Jean-Christophe Berlin. Alors, des douleurs associées à des gestes répétés dans le cadre professionnel, vous devez voir ça fréquemment en consultation.
Oui. Alors, par rapport à ce cas précis, là, encore une fois, bravo, il faut s'occuper de ses parents, c'est très bien. Par rapport aux douleurs du bras, il faut faire attention aux douleurs du bras gauche parce que bon, ça peut aussi être un signe au niveau du cœur, mais enfin, je pense que là, c'est pas le cas. Si c'est une douleur articulaire du coude, il faut comprendre que le massage, de manière générale, ça ne doit pas toucher les zones articulaires. C'est-à-dire qu'on peut pas masser les os, ni même les articulations. C'est même contre-indiqué, c'est une des contre-indications, on ne masse pas les articulations. Donc si cette personne a mal au niveau du coude et que c'est au niveau musculaire, parce qu'il y a des muscles évidemment qui s'attachent sur le coude, effectivement les massages peuvent être utiles, ce sont des massages plutôt tendineux, hein, c'est un peu particulier. Mais il faut pas masser l'articulation, il faut pas masser les os. Le massage de l'articulation, ça se fait avec des mouvements, c'est-à-dire que quand vous bougez le coude, vous faites des flexions, extensions mm-hmm. du coude, ça masse, si on peut dire, ça fait bouger l'articulation, c'est un massage interne, mais c'est pas avec les doigts, c'est le mouvement qui fait le massage articulaire, si vous voulez. Mais on ne doit pas masser à proprement parler, c'est-à-dire qu'on ne doit pas toucher les articulations, parce qu'en fait, ça peut être douloureux. Mm-hmm. Donc, dans ce cas-là, le massage est plutôt proscrit, il faut pas le faire. Mais
attendez, excusez-moi, je vous coupe, c'est très intéressant ce que vous venez de dire. Ça veut dire que quand il y a une douleur, au cours du massage, on arrête directement. Hein. Le concept de se faire du mal pour se faire du bien, ça ne marche pas.
Bah, en tout cas, en Occident, c'est ce qu'on fait. C'est pas tout à fait le cas. C'est en Thaïlande ou dans d'autres régions, en Asie en particulier, les massages sont assez douloureux. Hein. Mais pour nous et pour moi en particulier, je pense qu'il doit être infradouloureux. On ne doit pas être douloureux. Si mm-hmm. c'est douloureux, il faut s'arrêter.
D'accord. Et autre question, Wilfried, par rapport à ce massage, parce que vous faites quoi comme geste, vous, quand vous massez votre maman précisément?
Bon, je masse plus vers l'épaule, le muscle, et je fais des plis avec son coude.
Voilà. Si je peux me permettre d'intervenir, voilà, il faut bien masser les masses musculaires, hein, le muscle, c'est la chair, donc il faut bien masser la chair, et non pas les os. Dès que vous sentez une résistance osseuse, il faut pas appuyer. Faut pas appuyer sur l'os, voilà.
Est-ce que vous utilisez, Wilfried, quand vous procédez à ce massage, est-ce que vous utilisez une crème, une huile, par exemple du beurre de karité? Vous faites comment?
Oui, ça arrive d'utiliser une pommade antidouleur. On applique souvent des pommades antidouleur mm-hmm. avant le massage.
Mm-hmm.
Oui.
Et bon, des produits traditionnels également?
Oui, bien sûr, c'est purement traditionnel.
Mmh. Jean-Christophe Berlin, justement, parce qu'il y a aussi cette dimension, on va pas dire qu'il faut beaucoup de matériel pour se masser, il suffit d'être bien installé dans un univers assez calme, mais on peut aussi utiliser certains produits.
Oui, alors en Afrique, la pharmacopée traditionnelle est très très adaptée, mais en Asie aussi, enfin, il y a beaucoup de produits. Bon, il faut rappeler quand même que la barrière de la peau est très étanche, c'est-à-dire qu'en fait, les produits passent assez peu, en vérité. Mmh. Hein. Mais il y a des produits chauffants. Alors, ils sont interdits maintenant en Europe, hein, mais il y a des produits qu'on utilise en Afrique en particulier, qui chauffent vraiment, donc base de piment, bon. Et donc il faut les utiliser avec parcimonie, mais c'était quand même assez efficace. Et la chaleur, de manière générale, souvent, sauf en cas d'inflammation trop importante, mais la chaleur est assez utile. Donc oui, bien sûr, il faut utiliser ce type de pharmacopée traditionnelle. Moi, je suis assez partisan.
Voilà. Et justement, pour ce qui est de l'atmosphère, de l'ambiance du massage, est-ce que c'est quelque chose, finalement, qui est complètement accessoire, un peu, on va dire, gadget, ou c'est vraiment quelque chose qui va rentrer en compte aussi dans le processus de relaxation?
Moi, j'en tiens compte parce que je pense que pour se détendre, il faut effectivement se soustraire. C'est-à-dire qu'il faut se soustraire aux éléments extérieurs. Donc, effectivement, il faut se mettre à l'isolement. Il faut être tranquille. Il faut pas être dérangé par les enfants qui crient, etc. Mais c'est pas toujours possible. Et donc, il faut pas que ça soit une barrière au massage. Si vous pouvez pas vous isoler, bah tant pis. Voilà, vous le faites comme vous pouvez. Mais effectivement, il vaut mieux quand même être plutôt axé sur son massage, tranquille et pas dérangé par l'extérieur.
Et en tout cas, on remercie beaucoup Wilfried pour son appel de Douala. Et on va partir tout de suite pour le Bénin.
RFI à Cotonou, 90 FM.
Pour vous retrouver, Adeyé Miraimi, bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors, il y a du bruit autour de vous, j'espère qu'on va bien s'entendre. Vous êtes kinésithérapeute, membre de l'association béninoise des kinésithérapeutes rééducateurs. Pour commencer, combien de praticiens sont inscrits au sein de cette association au Bénin?
Oui, merci Caroline, merci RFI, merci aux auditeurs. À la date d'aujourd'hui, nous avons 220 kinésithérapeutes inscrits.
Et du côté du parcours de soins, Adeyemi Raimi, comment est-ce qu'on arrive jusqu'au cabinet d'un kiné? Qui prescrit ces séances?
C'est comme l'a dit Christophe, les patients passent par des spécialistes qui les orientent à leur tour vers les kinésithérapeutes.
Alors, du côté de vos patients, hein, chez vous, qui vient vous voir? Qui vient en consultation?
Essentiellement des patients qui ont de douleurs quelque part.
Mmh.
Oui, ils se plaignent pour de douleurs et puis ils demandent des massages.
Ils demandent des massages pour quel type d'affection? Tout à l'heure, on entendait des auditeurs qui parlaient du cas de leur papa âgé, peut-être de lombalgie. Est-ce qu'il y a des maladies particulièrement que vous prenez en charge?
Donc, il y a surtout des jeunes également qui travaillent à cause de leur activité, qui est plus ou moins sédentaire, ce qui fait qu'ils restent dans une position pendant longtemps, ce qui fait qu'il peut avoir de souffrances au niveau du muscle et puis un peu de contractures.
Ça veut dire que vous allez non seulement parfois procéder à des massages, mais peut-être surtout conseiller des exercices de kinésithérapie qui vont un petit peu ressembler à ce qu'on fait en rééducation?
Tout à fait. Au Bénin, c'est rare de toute façon de voir sur les prescriptions uniquement le massage.
Mmh.
Oui, on met la rééducation fonctionnelle.
Mmh.
Et puis, le massage, ça vient souvent à la fin des exercices pour le retour au calme chez le patient et pour qu'il soit apaisé et rentré doucement.
Est-ce que vous avez le sentiment que les patients sont demandeurs? Est-ce qu'ils vous disent justement, après ce contact, après ce toucher, « Ah merci, ça m'a fait du bien, je me sens vraiment mieux ».
Comme l'a dit Christophe, l'écoute, c'est assez important. Mmh. L'écoute du patient, il dit « Il y a cette partie-là, et puis il faut toucher cette partie-là, sinon il ne va pas se sentir bien. Donc, c'est une relation, le massage, une relation entre le patient et son kiné. C'est en ce sens-là que ça passe bien.
Et on disait tout à l'heure, certains patients qui ont un petit peu des réticences, qui ont du recul quand on les approche. Comment ça se passe avec vous? Est-ce que les massages font partie du quotidien de la population ou les gens sont plutôt réservés?
Donc, le massage ne fait pas vraiment pas partie du quotidien du Béninois. Ça se passe plus ou moins en famille, dans des zones urbaines.
Est-ce qu'ils sont surpris que ce qu'ils considèrent un petit peu, même si à proprement parler vous n'êtes pas médecin, mais un soignant, les touche, alors que c'est plutôt quelque chose qui se fait à la maison et dans l'intimité?
Donc, les massages, comme ils le font, ils pensent que à l'hôpital, il y aura encore un peu d'apport que le professionnel va apporter plus. Il a les techniques, ils seront plus soulagés, ils seront plus apaisés parce que d'autres viennent suite à des massages effectués en famille et avec des insatisfactions. Ils viennent dire que je me suis fait masser par mon épouse, par mon époux, mais je suis pas satisfait.
Et donc, ils vous demandent davantage, ça veut dire qu'ils sont relativement exigeants avec vous, mais est-ce que après les séances, justement, ils constatent un mieux et ils voient vraiment l'amélioration qui est bien sûr permise grâce à toute la technique que vous avez obtenue par le biais d'une vraie formation?
Effectivement, si le massage est indiqué, s'il n'y a pas une maladie infectieuse qui est cachée en bas ou bien des rhumatismes inflammatoires, ça va pouvoir passer.
Et aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que cette profession de kiné, de kinésithérapeute, c'est quelque chose qui est bien connu dans votre région, dans votre pays, le Bénin, à Adeyemi Raimi, où il faudra encore faire plus pour faire connaître ce métier?
L'association des kinés du Bénin continue à se battre pour se faire connaître. Donc, dans ce sens, le 8 septembre de chaque année, comme c'est la journée mondiale de la kinésithérapie, tous les kinés du Bénin se retrouvent dans une ville et puis avec l'apport des autorités administratives et politiques, on essaye d'organiser des séances de marche, des séances de sensibilisation et même parfois des consultations foraines.
Ça veut dire qu'on va dans les villes, dans les villages, aller directement masser les gens sur le terrain.
Tout à fait. On va aller présenter ce qu'on sait faire et puis comment est-ce que ça se passe. Et puis, pour l'année dernière, par exemple, le thème a été la douleur chronique et le sport. Parce que les patients, quand ils ont mal, ils n'aiment pas bouger, alors que quand on a mal, il faut bouger pour pouvoir améliorer. On pense que c'est contre-indiqué, mais c'est bien indiqué.
Et c'est exactement le contraire. On vous remercie infiniment pour ces réponses, Adeyemi Raimi. Je rappelle que vous êtes membre de cette association béninoise des kinés rééducateurs. On vous retrouve en studio, Jean-Christophe Berlin, pour cette dernière partie de notre échange dans Priorité Santé. On a bien compris que la kinésithérapie aujourd'hui, c'est absolument international. Est-ce que vous avez malgré tout l'impression que dans certaines zones du monde, se toucher ne fait pas du tout partie des pratiques de soins? On a une réserve totale par rapport à ce genre de choses?
Alors oui, ça existe, mais je voudrais revenir un petit peu sur ce qui vient d'être dit. Moi, je suis vraiment très touché par l'universalité du massage et par ces gens qui se battent en Afrique pour essayer de développer le massage. Moi-même, j'ai été coopérant en Afrique et j'ai essayé d'apporter mes connaissances et on a eu des échanges de connaissances et c'est comme ça que je crois que le massage se développera dans le monde et c'est très utile et il faut continuer de faire des congrès, il faut continuer de faire des échanges et la coopération en ce sens-là était tout à fait intéressante. Est-ce qu'il y a des zones dans le monde où le massage est peu recommandé? Pas réellement, mais on peut dire que en Amérique du Sud, par exemple, c'est pas très pratiqué. Il y a des régions, effectivement, sans qu'on sache vraiment pourquoi, parce que les Indiens d'Amérique utilisaient le massage. Mais en Amérique du Sud, à ma connaissance, il y a assez peu de massage. Alors, c'est lié souvent au christianisme, il faut bien le dire, parce qu'en fait, il y a une défiance vis-à-vis du toucher. Alors, tous les pays très très catholiques, en fait, se méfient un petit peu du massage encore. Bon, voilà. Mais sinon, le massage est assez répandu dans le monde et en particulier en Afrique.
Alors là, on a parlé surtout avec l'automassage. On va dire de ce qu'il y a de plus simple. Certains massages sont vraiment élaborés. On voit même que il peut y avoir un effet sur la neurologie. Donc là, on va très très loin. Certains gestes sont plus compliqués. On va pas les faire à la maison du tout. Il y a des zones particulièrement fragiles. Est-ce qu'il y a justement des mises en garde, Jean-Christophe Berlin, pour dire tout à l'heure, vous parliez des articulations. Oui. Il y a des choses vraiment à ne pas faire.
Oui, bon, on l'a dit, il faut pas être violent, il faut pas faire mal. Dès que vous faites mal, dès que le ressenti du patient est douloureux, on arrête. Voilà, on évite les muqueuses, on évite les yeux, on évite les zones qui sont fragiles de manière générale. Et la difficulté du massage, d'un massage bien mené, c'est la densité, c'est-à-dire l'intensité, c'est-à-dire la pression que vous mettez. C'est ça qui est un peu compliqué de savoir est-ce que je dois appuyer fort, pas fort, etc. Donc le meilleur moyen pour apprendre, en fait, c'est de demander au patient, ça te fait mal, ça te fait pas mal, voilà. Et selon les gens. Effectivement, ça ne sera pas toujours la même réponse, mais c'est comme ça, c'est en tâtonnant. Il n'y a pas plus empirique que le massage. C'est même compliqué de faire un livre sur le massage parce qu'en fait, c'est plus en regardant et en ressentant qu'on arrive à bien comprendre le massage. Mais c'est comme ça, en tâtonnant, qu'on arrive à un bon dosage. Et de manière générale, il faut bien insister sur l'innocuité du massage. C'est pas dangereux. Si on est gentil, si on veut faire plaisir, on fera toujours plaisir. On fera peut-être pas très bien, mais on fera plaisir.
Et pourquoi certaines personnes s'endorment pendant qu'on les masse.
Ah ben c'est immédiat, moi si vous commencez à me masser tout de suite, je m'endors. Moi ça marche très très
on
bien.
On peut faire
un échange ou on le fera plus tard, mais en tout cas moi le massage je m'endors tout de suite. Bah il y a une libération d'endorphine, ça on le sait, donc l'endorphine ça fait dormir. Et puis si vous êtes en confiance, bah de manière générale, ça rappelle le sein maternel si je puis dire hein. Et donc voilà, c'est on s'endort, on est bien.
Alors le kiné, je disais en début d'émission que vous êtes également romancier, en septembre dernier sorti votre roman Baccar a disparu aux éditions du Sémaphore. Kiné romancier, alors dans votre livre, rencontres et découvertes, et j'insiste encore, tout à l'heure on parlait des massages au pluriel, là des découvertes au pluriel, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
Bah écoutez, effectivement, c'est un livre que je tire un peu de mon vécu, hein, c'est romancé, mais c'est une expérience en Afrique, donc et autour d'un petit garçon que j'ai rencontré, auquel je me suis lié, et puis il a disparu, et donc voilà, je vous laisse découvrir la suite. Mais en même temps, c'est un voyage initiatique en Afrique, et moi j'étais jeune à ce moment-là, et j'avais les yeux grands ouverts, et j'ai appris beaucoup de choses, et j'ai échangé, et je suis très touché par les messages africains que je viens de recevoir, parce que je vois que le message du massage passe toujours en Afrique.
Et donc voilà, Babacar, c'est ça. Apprentissage des deux côtés. Vous avez appris quoi
J'ai appris énormément. Et j'ai appris la modestie en particulier. Mais j'ai appris énormément en Afrique, parce qu'en fait, c'est pas le même monde. On vit pas de la même façon. Et donc, c'est bien de se confronter à des valeurs différentes. Et ces valeurs, moi, je les ai remis en cause souvent. Et j'en parle dans mon livre. Je crois qu'on est un petit peu prétentieux en Occident par rapport à ces valeurs traditionnelles qui sont toujours vivantes en Afrique et dont on devrait parfois s'inspirer, en particulier au niveau du stress. Voilà.
Prendre le meilleur partout où il est.
Bien sûr. Alors j'espère que ce livre sera utile pour ça, mais en même temps c'est un témoignage et c'est une histoire un peu étrange et qui peut faire un peu peur, mais voilà, c'est
la magie est partout. Merci beaucoup Jean-Christophe Berlin d'avoir répondu à notre invitation et pour toutes ces précisions, masseur kinésithérapeute, et c'est le duo Harry Lennox Anthony Ramos qui nous accompagne avec If You Want to Stay jusqu'à la chronique du docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport. De parler du sport, l'activité sportive, c'est bon pour la santé, et on en parle dans notre émission avec vous, docteur Jean-Marc Sen, bonjour.
Bonjour Caroline.
Docteur Sen, médecin du sport, on voit souvent hein, les sportifs s'essuyer le visage lors des grandes compétitions, nous aussi, quand on fait du sport, quand on marche vite, on peut transpirer plus ou moins abondamment pendant cet effort. Alors une question toute simple, hein, docteur Sen, Pourquoi est-ce qu'on transpire quand on fait du sport ?
Mais alors, c'est pour une raison très simple. D'abord, il faut savoir que la transpiration, c'est un mécanisme naturel. Alors, pourquoi est-ce qu'on transpire ? Eh bien, parce qu'on a des glandes, des organes qui s'appellent les glandes sudoripares, qui sécrètent la sueur. Il y en a un peu partout dans le corps. 2 à 4 millions de glandes sudoripares. Et il faut savoir que dans l'organisme, on a besoin de maintenir une température constante à 37 degrés. Et la transpiration est essentielle justement pour assurer cette régulation, parce que lorsque la sueur s'évapore, eh bien cela permet de faire partir de la chaleur du corps, de la peau, mais aussi de l'organisme, et comme ça la température baisse. Et c'est ce qui permet, c'est ce mécanisme d'évaporation de la transpiration qui permet de maintenir la température à 37 degrés. Alors quand on fait un effort, on produit beaucoup de chaleur évidemment à la avec la contraction musculaire, et c'est l'hypothalamus, c'est une région du cerveau qui va commander ces glandes sudoripares et qui va déclencher justement le processus de transpiration. Alors si on transpirait pas, eh ben on risquerait une hyperthermie, le fameux coup de chaleur dont on a déjà parlé dans une chronique précédente, et ça peut être relativement grave puisque ça peut s'avérer mortel.
Et si on transpire beaucoup, docteur Sen, on se déshydrate, donc quand on fait du sport, logique, il faut boire et boire en quantité suffisante.
Et oui, parce que la déshydratation effectivement a des effets importants, outre le coup de chaleur dont on a parlé, eh bien cela fait que le sang s'épaissit, il y a moins d'eau dans le sang, le cœur doit donc fournir plus d'efforts, se contracter plus vite pour pouvoir transporter le sang, et puis tout cela fait que justement l'oxygène qui parvient aux muscles, les nutriments, eh bien sont diminuer, et tout ça pose vraiment de problèmes. Donc, il peut y avoir des pertes de performance qui peuvent chuter. Par exemple, savez-vous, Caroline, qu'un 1% de déshydratation entraîne 10% de baisse de capacité physique. C'est gigantesque. Et on sait que, justement, quand on est déshydraté, on peut avoir des douleurs aux muscles, des crampes, aux tendons qui peuvent apparaître. On peut faire des malaises, on a soif, évidemment. La fréquence cardiaque augmente, la tension artérielle chute. On peut même avoir des calculs rénaux à la suite de déshydratation chronique. Donc surtout, ce qui est important, c'est de boire, surtout lorsqu'on fait une activité sportive.
Et question simple, boire oui, mais en quelle quantité ?
Par exemple, on peut prendre deux exemples. Si on fait une marche modérée, modérée, ça veut dire peu intensive, on est capable de parler en suant un tout petit peu lorsque l'on marche, avec une humidité moyenne à 50%, à 23 degrés, eh bien un quart de litre d'eau par heure, c'est largement suffisant. Donc, il suffit de boire un tout petit peu. En revanche, si on court à un rythme plus important, par exemple 15 km/h, 30 degrés à 50% d'humidité, là, c'est carrément 3 litres d'eau par heure qu'il faudra. Donc, on voit vraiment que la quantité d'eau est fonction, en gros, de l'environnement et de l'intensité de l'effort que l'on va faire. Il faut boire avant, pendant et après l'effort. Et puis, surtout, il ne faut pas attendre d'avoir soif pour boire, parce que la soif, eh bien, indique une déshydratation déjà importante. Il y a déjà 20% des besoins corporels qui sont difficiles à rattraper, évidemment, pendant l'effort. Pas hésiter à boire en petite quantité, parce que évidemment l'estomac et le tube digestif ne peuvent absorber qu'une quantité modérée, mais il faut boire régulièrement des boissons plutôt fraîches avec une température aux alentours de 15 degrés pour pas perturber la digestion, évidemment. Et puis il faut s'hydrater aussi après l'effort jusqu'au coucher, des boissons de récupération, comme ça permet justement de récupérer les sels minéraux et les oligo-éléments. Voilà, donc j'espère que avec toutes ces réponses, nos auditeurs resteront bien hydratés.
Bien hydratés, bien informés. Merci, docteur Sen. On vous retrouve aussi sur votre blog Jean-Marc Sen en minuscule tout attaché, jeanmarcsen.com. À très bientôt. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise votre émission. À C'est tous à maquer, Ophélie Lassen, Didier Bleu, Laurent Hérault, et demain, émission spéciale sexualité avec le docteur Catherine Solano, sexologue. Vous pourrez lui poser toutes vos questions en direct. Le sujet du jour, les préliminaires. On parlera donc beaucoup des caresses. À demain. D'ici là, portez-vous bien et toujours, lavez-vous bien les mains.
Vous avez suivi Priorité Santé avec Sunou Assurance, qui a le bon profil pour vous accompagner tout au long de cette nouvelle année qui s'annonce digitalement innovante. Sunou Assurance, notre métier, l'assurance.